Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Doradio, la radio des Hautes-Garonne. Et bien sûr avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle, on est toujours présent par tout temps, toute température. Et voilà, on est ravis de vous retrouver, hein. Ça c'est ma formule, voilà, j'ai même un copyright dessus. Allez, tout de suite, je vais vous présenter le sommaire de ce journal et du magazine thématique à suivre, juste en rappelant bien sûr comment nous suivre avant d'annoncer le 10 sommaire. Voilà, on peut nous suivre par la bande FM, le 411.3 bien sûr, le 10 juillet 1997, et oui, très bientôt on va marquer un anniversaire, hein, 29 ans d'activité, ce n'est pas rien. On peut nous suivre par odoradio.fr, qui vous permet entre autres de venir télécharger gratuitement bien tous nos replays. Et troisième moyen de nous suivre, voilà, je réfléchissais si je voulais compléter, on est en direct. Voilà, troisième moyen de nous suivre, c'est le fameux DAB ou DAB+, hein. J'ai vu que beaucoup le prononcent de manière différente, chacun sa manière. Voilà, je ne vais pas extrapoler sur le sujet. En tout cas, c'est un moyen pour nous suivre, c'est la radio numérique terrestre, si vous êtes en métropole bordelaise, équipé du poste récepteur adéquat. Allez, donc le sommaire de ce journal et du magazine à suivre en ce vendredi 26 juin. Voilà, c'est Colline qui va nous présenter quelques brèves d'infos. On attend toujours nos invités, hein. J'en profite pour dire que la ville de Lormont a annulé tous les événements publics de ces jours-ci jusqu'à demain inclus. Et là, on devait parler du marché de producteurs locaux qui est annulé donc à Lormont, mais on avait quand même gardé cette interview pour pouvoir présenter toutes les activités de l'association qui organise. Donc j'espère qu'on va retrouver les personnes adéquates. On leur fait un petit coucou, hein, si elles sont, j'en bafouille, sur la route. Voilà, sinon pour la partie musicale, on écoutera Tout à l'Est. On l'a écouté souvent ce groupe, mais je vois qu'il y a beaucoup d'actualités. Vous pourrez le retrouver sur le festival Lié, voilà, une initiative de culture du cœur en Gironde. Ce sera la salle des fêtes du Grand Parc en extérieur, hein, s'il fallait le préciser, mais c'est dans le cadre d'un été au Grand Parc, donc avec plein d'associations locales qui se mobilisent pour avoir plein de bons temps forts. Et le jeudi 16 juillet en sera un, mais il y aura tout un tas d'activités bien sûr en amont, et puis certainement sur le week-end qui suivra. Et ce groupe, on pourra le retrouver. Voilà pourquoi j'en parle aussi, car on a rentré toute la prog de l'étang heureux, voilà, qui va se dérouler à Florac à partir du 4 juillet. Et le groupe Tout à l'Est fait partie de la programmation, en s'y produisant notamment le 17 juillet prochain. Et comme tous les vendredis, on va retrouver le magazine juridique et social avec Maître Paul Cesseau. Et la thématique qu'il va aborder, n'est-ce pas Nicolas, c'est le devoir conjugal. Voilà, je crois qu'on a été assez complet. Et tout de suite, on retrouve Colline pour nous présenter quelques brèves d'infos pour ouvrir ce journal en ce vendredi 26 juin. Bonjour Colline.
Bonjour Joël et bonjour à tous. En raison des fortes chaleurs attendues aujourd'hui et demain, le réseau TBM adapte son fonctionnement. Les trams circuleront normalement de 5 à 1 heure, mais les lignes A et E resteront interrompues entre Sainte-Catherine, Stalingrad et Quinconce en raison des travaux sur le pont de pierre. Des bus relais sont mis en place. À ce nom, le festival Corazón Latino débute ce vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche au programme concerts, animations et ambiance latino dans plusieurs lieux de la ville. Plusieurs événements prévus aujourd'hui ont été adaptés en raison de la chaleur. À Bassens, la brasserie exceptionnelle de Solidarvet est organisée ce samedi. Vêtements et accessoires proposés à petit prix. Le rendez-vous est donné toute la journée avec une ouverture dès 10h. Le Festival des Hautes-Garonne dévoile enfin son affiche 2026. Des concerts gratuits auront lieu début juillet dans les parcs de Bassens, Senon, Floirac et Lormont. 8 concerts sont annoncés sur les 4 jours.
Voilà, merci Colline pour ces quelques brèves. On ne va pas se quitter comme cela, Colline. C'est votre dernier jour de stage, n'est-ce pas?
Eh oui, c'est le dernier jour.
Vous n'avez plus de voix, c'est ça?
Ça y est, c'est fini.
Non, mais juste deux mots, vous inquiétez pas, tout va bien. Là, c'est juste, présentez-vous, pas la vie privée, bien sûr, on ne se permet pas, mais par rapport à votre cursus universitaire.
Alors, je suis à l'université à Montréal, à l'UQAM, et en journalisme, communication journalisme, et du coup, je suis rentrée française d'origine, rentrer en France pour faire mes stages, dont à Eau de Radio. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Ça a été un mois plein d'apprentissage.
Alors, c'est la fin, dernier jour. Juste ma dernière question. La suite pour vous, c'est continuer votre cursus. Là, vous êtes en deuxième année, hein, si je m'en suis.
Exactement. Je rentre au Canada après ça pour ma dernière année de licence.
Bon, ben voilà, ben, au nom de l'équipe, on vous souhaite plein de belles choses.
Merci beaucoup et merci à vous.
Vous voyez, c'est pas très compliqué les interviews. Mais en même temps, vous connaissez. Hein, voilà, on essaye toujours d'avoir quelques mots, pas pour gêner, bien sûr, parce que voilà, on a des fois certains stagiaires en technique et autres qui n'osent pas s'exprimer. Allez, merci pour le travail accompli à nos côtés. Puis on vous souhaite plein de belles choses, bien sûr, à vivre à l'avenir. Allez, je regarde du côté de la régie technique si nos invités ne sont toujours pas là. Hein, ils nous avaient confirmé. Hein, j'insiste là-dessus. Donc, si on souhaite aussi, bon voilà, pas qu'on leur souhaite. Donc du coup, ben, on va un petit peu changer le protocole. Allez, musicalement, on va aller du côté des Balkans, voilà, avec tout à l'est. On va voyager. Je ne sais pas si ça va nous amener un petit peu de fraîcheur. En tout cas, vous allez voir, voilà, c'est très festif, c'est très joyeux, même si on ne comprend pas forcément les paroles, bien sûr. Enfin, en tout cas, pas moi, n'est-ce pas, je ne sais pas vous, Nico, qui êtes polyglotte. Allez, tout à l'est, je redonne leur prochaine date de concert. Et j'espère avoir nos invités en plateau en suivant. Allez, place à la musique. Ao beja me ca cosma batale pa 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 ra 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 toujours en direct, c'est notre journal. On se vendredi 26 juin, voilà, place à la musique, vous avez pu entendre tout à l'est, voilà, avec plusieurs dates de concert. Là, je fais juste un petit focus, hein, vous pourrez retrouver le groupe le jeudi 16 juillet, ça sera dans le cadre du Festival Lié, une initiative, même si elle est collégiale, mais tout particulièrement de l'association Culture du Cœur Gironde qu'on salue. On est dans le même bâtiment du côté du domaine du Loret, et le groupe se produira le lendemain, voilà, sur la programmation de Les Temps Heureux, voilà, comme je disais tout à l'heure en préambule. Voilà, j'ai toutes les dates de les temps heureux avec chaque fois les thématiques, les motivations, les artistes, les propositions. Voilà, ça permettait de refaire un beau clin d'œil à tout à l'Est et certainement qu'il y a beaucoup d'autres dates, bien sûr. Et c'est tout le mal qu'on souhaite aux artistes. Allez, on est toujours en direct. Coralie, bonjour, bienvenue à Oudo Radio.
Merci, bonjour.
Alors, vous êtes responsable projet communication Atelier Terrain des Coteaux. Alors, initialement, on devait parler du marché des producteurs locaux de demain samedi. Et il y a une décision, on ne la critique pas, hein, c'est normal vu la conjoncture. Tous les événements étaient annulés, donc il n'y aura pas de marché de producteurs locaux.
Non.
C'est dur de commencer l'interview comme ça. Mais, oui. Mais du coup, on a quand même gardé cette interview. Je fais un petit coucou à Julie qui est avec nous. Bah, ça permet de parler de vos actions. Là, du coup, comme tous les événements ont été annulés, du coup, bon, on est un petit peu sous le choc, bien sûr, parce que c'est de l'organisation, de la préparation. Il faut prévenir les intervenants, les partenaires. Donc là, il y a une date affichée où il faut laisser le temps, une date de report.
Il y a une date de report qui n'est pas encore définie, ce sera certainement en septembre. Mais effectivement, il faut réfléchir à tout ça, notamment avec la ville de Lormont, savoir quels sont leurs autres événements.
Et puis tous les partenaires, parce qu'il y en a certainement d'autres. Hein. Septembre, en général, ce sont les rentrées culturelles, etc. Bon, voilà, donc événement annulé. Alors, c'est dommage, mais bon, faut raison garder. Voilà. On sait qu'il y a des températures qui sont encore élevées. Et voilà, il faut que ça soit des bons moments. Donc là, on ne va pas extrapoler,
exactement.
C'est annulé, malheureusement ou heureusement, hein, on peut se placer comme on veut. Alors du coup, Coralie, on va en profiter, façon de parler, pour parler de terre des coteaux. Alors moi, j'en entends parler parce qu'on enregistre le magazine municipal de la ville de Lormont. Donc des fois, on a des infos. Alors, si vous deviez nous présenter ce que vous faites au sein de ces ateliers, notamment, hein.
Donc Terre des Coteaux, c'est un projet de maraîchage biologique qui s'est installé en début 2025. C'est tout récent.
Donc ça fait, à Lormont.
Voilà, à Lormont. À la base, donc, c'est l'Atelier des Coteaux, qui est un atelier chantier d'insertion spécialisé dans le paysage à Lormont, qui a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt du GPV, émis par le GPV Rive-Droite. Dans cet appel à manifestation d'intérêt, il y avait une subvention de l'ANRU, l'Agence nationale du renouvellement urbain, pour mettre en culture les parcelles des communes de Lormont, Senon, Floirac, Artigues, les communes de GPV. Donc il y avait des parcelles qui avaient été identifiées et dans le cadre du projet agricole de territoire, ils voulaient mettre en culture ces parcelles. L'idée, c'était de les mettre en culture de façon biologique et de que la production produite soit destinée aux cuisines collectives, aux cuisines centrales.
On va le détailler d'ailleurs à quel usage, si vous voulez bien. Moi, j'ai des chiffres sur les terres que vous cultivez pour qu'il y ait des beaux légumes de saison qui poussent. Là, ça représente combien d'hectares?
Donc, nous, on cultive la parcelle du Grand Tressant, donc sur Lormont.
Toujours à Lormont, voilà.
Voilà.
Donc, 2,5 hectares.
Il y a 2,5 hectares.
J'en profite pour remettre à jour mes notes.
Tout n'est pas encore en culture parce que, comme je vous l'expliquais, on est en démarrage. Hein, ça a démarré en 2025. On a installé 3000 m² de serre. On a aménagé toute la parcelle, on a construit une boutique et une cabane de vie pour les salariés sur place, pour qu'ils puissent se changer, manger et laisser leurs affaires. Donc depuis juin 2025, on a eu les premières récoltes, on a commencé les premières ventes aux particuliers. On a commencé aussi les premières ventes aux cuisines, aux cuisines donc de Lormont, du Sirec et de Bassins. Avec qui donc on a un partenariat dans le cadre de cette subvention. Le but était de leur apporter 80% de la production. C'est pas aussi simple. On est aujourd'hui à peu près 30%. Il y a un bon partenariat, ça se passe bien, on est content, on a envie de développer ça, que ça continue, mais il faut que les choses se mettent en place doucement parce que les cuisines, elles ont aussi leurs habitudes, et elles n'ont pas pour habitude de recevoir des légumes bruts. Donc tout se monte ensemble, en partenariat, et on espère pouvoir leur livrer de plus en plus de légumes, et notamment les légumes d'hiver.
Voilà, donc c'est au niveau de la production. Alors, c'est destiné, vous venez de le préciser, aux cuisines collectives, écoles, centres de loisirs, résidences pour personnes âgées et également. Alors, les avantages, ils sont multiples, hein, parce que c'est de la qualité, c'est du bio.
C'est local.
Le fameux circuit court aussi, c'est important, parce que là, après, bon, il y a différentes étapes pour pouvoir livrer, bien sûr, les produits, mais de la qualité, de la proximité, circuit court. Donc, ça se met en place, en fait, peu à peu, hein, vu que c'est récent, l'activité.
Oui.
Bon, qu'est-ce qu'on... la vente aux particuliers, oui, ça, vous l'avez précisé aussi. Oui. Hein. Parce que moi, c'est, par rapport aux cuisines, ça, je pense que je l'avais lu dans les différents... Mmh. Mais on reçoit tellement d'infos, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des focus. Mais les particuliers, donc les citoyens, donc boutique ouverte tous les mercredis et les samedis, donc tout le monde peut venir,
pas
obligé de venir d'une des villes du GPV.
Tout. Ah hein, non, bon. Non, là-dessus, on a une...
Non, mais je me doutais la réponse, voilà. Mais c'est mieux quand on l'a.
Très rapidement, on a eu un très bon accueil des personnes qui
le
bouche vivaient,
à oreille, voilà, parce que comment ça fonctionne justement, c'est il y a cette activité qui est lancée, la boutique est ouverte 2 jours par semaine, donc on communique bien sûr via les réseaux, les journaux municipaux, et là est-ce que le public est au rendez-vous?
Tout à fait. Alors
mieux,
en plus, ça a été une ouverture progressive parce qu'il fallait suivre aussi la production. Donc au départ, on ouvrait que tous les 15 jours, le mercredi. Et depuis 2026, on ouvre tous les mercredis et ça fait vrai une semaine.
Et moi, j'ai samedi aussi. Du coup, c'est valable pour les deux, mercredi
et
samedi.
Ça fait une semaine qu'on ouvre également le samedi
bon,
matin.
Bon, voilà, pardon. Du coup, en plus, vous me l'avez dit. Pardon, je suis tellement dans l'élan. Donc sans me donner forcément des chiffres, donc les habitants, ils sont ravis parce qu'il y a des marchés. Il y a eu des coopératives qui avaient été lancées, notamment à Lormont. Ça n'a pas forcément fonctionné. Mais là, c'est quoi que vous entendez enfin des produits de saison, bio, de qualité. Après, je ne sais pas si les tarifs sont compétitifs. En même temps,
on essaye.
La qualité se paie. Hein, oui. On est d'accord. Donc, c'est quoi les retours des habitants?
Sur le marché du bio, on est très compétitif.
Bon,
franchement,
c'est bien.
Après, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes prix que les marchés de ce nom, par exemple, ou les marchés avec les produits conventionnels. Le marché du samedi matin à Lormont, c'est pareil. Ce n'est pas du produit bio qui est proposé, donc forcément on est un petit peu plus cher, et en plus on fait de l'insertion, parce que ça j'en ai pas parlé, mais nous à la base on est atelier chantier d'insertion, ça veut dire qu'on emploie des personnes qui sont éloignées du travail, donc ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes étrangères, des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, qui ont eu des accidents de vie ou des problèmes de logement, de famille, n'importe quoi, qui fait qu'à un moment donné c'est compliqué pour eux de trouver du travail, et donc nous on les emploie donc à la fois dans les espaces verts et dans le maraîchage, parce que notre spécialité au départ, c'est les espaces verts. Et donc, on les recrute pour un minimum de 4 mois jusqu'à 2 ans, et ils montent en compétences sur les métiers, sur l'activité qu'on leur propose, donc soit les espaces verts, soit le maraîchage.
Oui, voilà, j'avais les infos, c'est vrai, mais après on l'a évoqué, hein, parce que les ambitions, bien sûr, c'est notamment produire bio, vous en avez parlé, favoriser les circuits courts, vous en avez parlé, et là c'est vrai que cette taxe est importante, donc là vous m'avez parlé de 4 mois, ça peut être des missions de 4 mois, c'est bien ça pour les...
Alors, dans l'insertion sociale, le
oui,
premier contrat...
Volet-là, oui.
Et de 4 mois minimum. Mais nous, on fait 7 mois minimum. Et ensuite, on renouvelle en fonction de la personne, de son désir, son implication et son projet professionnel. Des fois, la personne peut rester que 7 mois parce que derrière, elle a une opportunité d'emploi.
Bien sûr. Mais c'est conventionné,
c'est
je présume.
Oui, tout à fait.
Donc là, c'est qui parce que là, vous avez cité des personnes éloignées de l'emploi. Il y a une question d'âge, parce qu'on peut, malheureusement, on le voit avec les missions locales, hein, on peut être éloigné de l'emploi, être sorti d'un cursus scolaire, même très jeune. Donc là, il n'y a pas de critère d'âge?
Si, le critère d'âge, il y a... plein de critères dans l'insertion, donc il y a
donc,
demandeurs d'emploi
lignes,
de,
si
grande,
vous...
de longue
bon.
Durée,
bon.
Et
a priorisé,
personne de moins de 25
dire,
ans, et personne de plus de 55 ans
bon.
Aussi.
C'est normal qu'il y ait des critères. Hein. Après, des fois, on se dit, je rentre jamais dans les clous, façon de parler. Donc là, ça peut être combien de personnes qui, sur un même laps de temps, parce qu'il faut les accompagner, bien sûr.
Oui.
Donc là, je ne sais pas si vous avez des...
On a des chiffres.
Des chiffres à donner.
Oui. On emploie à peu près une trentaine de personnes par an sur chacune de nos structures, parce qu'on a aussi une entreprise d'insertion. Donc on a deux structures avec une soixantaine de personnes en insertion. Sur l'activité espace vert, on a à peu près une cinquantaine de personnes et une dizaine sur le maraîchage.
Bon, ça c'est important, c'est un axe important, hein, bien sûr, oui, il faut bien le préciser. Donc là, c'est vrai que là, nous, on a un volet emploi hein, qui est le lundi à 12h30, donc je vais rester sur cet aspect-là. Après, tous les aspects, bien sûr, que vous avez présentés de vos activités sont importants, bien sûr. Mais là, quelqu'un qui nous entend, qui se dit, tiens, mais j'ai cette passion-là, ça se passe comment? Donc, un prescripteur, il faut combien d'un organisme agréé?
Il y a une plateforme qui s'appelle plateforme de l'inclusion sur laquelle les prescripteurs prescrivent des personnes. Donc les prescripteurs, ce sont France Travail, la mission locale, le PLI, ça peut être des organismes agréés également. Après, on a beaucoup de gens qui viennent directement chez nous. Et donc,
Pareil, c'est le bouche à oreille d'avoir entendu parler.
Et donc on les renvoie vers France Travail de façon générale ou la mission locale ou d'autres structures plus adaptées.
Oui, parce qu'il faut que ça soit conventionné, passer un accompagnement à la fois de votre côté, et puis c'est bien qu'il y ait une structure qui puisse suivre.
Oui, faire le lien aussi.
Bon,
oui.
Ça c'est un aspect important. Est-ce qu'on a tout dit sur vos activités? Parce qu'après l'importance de la qualité, bien sûr, la saisonnalité, ça c'est important. Donc en ce moment, on est plutôt quoi comme légumes? Concombres, tomates, aubergines, c'est bien
exactement.
Ça
exactement. On a aussi beaucoup de courgettes.
Bon.
On a un peu de melon à la boutique en ce moment, c'est la fin des fraises, on n'a plus de champignons non plus de nos amis de la cave agricole, mais ils reviendront à la rentrée, c'est sûr. Et puis après, on a un peu tous les produits de saison. On a aussi des oignons, des carottes, des pommes de terre. Donc le marché est annulé, certes, samedi matin, mais la boutique est ouverte de 9h à midi.
Ce samedi, hein.
Ce samedi, oui.
Et tous les samedis du coup, mais là c'est pour faire le clin d'œil par rapport au marché de producteurs locaux qui est annulé. Qu'est-ce qu'on pourrait repréciser? On n'hésitera pas à vous inviter. Bon, on espère que vous allez trouver une date, ce qui va être compliqué. Je ne veux pas être péjoratif, bien sûr, mais comme il y a une volonté, je pense que vous allez trouver une date, si ce n'est pas en septembre.
Ça, c'est sûr, oui. Bon. Déjà, les producteurs sont très envieux, ils sont tristes de l'annulation de cette
bien
date.
Bien sûr, parce que ça se prépare, un événement, il faut qu'on s'organise, etc. Bon, voilà, il faut s'en accommoder.
Exactement.
Donc, ça sera un petit peu plus tard. Après, là, vous parlez de septembre, bon, il y aura une date qui sera avérée à un certain moment. On suivra ça, hein, bien sûr. Là, on est en lien. Là, pour conclure, on peut rappeler néanmoins que la boutique est ouverte donc tous les mercredis. Il y aura une pause estivale ou
non.
Pas?
On a suffisamment de salariés sur le terrain et dans les bureaux pour faire tourner la boutique
donc,
tout le temps.
Tous les mercredis, tous les samedis. Peut-être rappeler l'adresse, le lieu exact.
Ah oui, on est au 30 rue Alain René. Donc, c'est la ferme du Grand Tressant, parce qu'elle est dans le quartier du Grand Tressant.
Oui, c'est un petit peu excentré, mais c'est
on est extra-rocade.
C'est près d'Artigues.
C'est ça.
Voilà. Mais c'est pas très loin. Hein.
La partie extra-rocade de l'Ormont. À côté du City Stade. Voilà, le City Stade du Grand Tressant, on est vraiment juste à côté.
Bon, je revois. J'avais participé à l'inauguration il y a bien longtemps.
Ah, super.
Il y avait un Lormontais hein, qui jouait à l'époque à Rennes. Mais je vois à peu près le quartier. Après, c'est bien pour les auditeurs qui comprennent bien. Mais écoutez, Coralie, je ne sais pas si vous voulez compléter. Là, il va nous rester 2-3 minutes pour conclure. Je ne sais pas si vous voulez revenir ou étayer certains propos. Je ne sais pas.
Nous, on est encore au démarrage, mais on est très content que la boutique s'ouvre deux fois par semaine. On a beaucoup développé la communication cette année pour justement faire venir du monde. Donc, on espère qu'on aura du monde en boutique demain, les autres samedis, les autres mercredis. On fait aussi des visites. On fait pas mal de visites, notamment avec les écoles. Le GPV nous a rendu visite pas mal de fois aussi. Les cuisines sont venues voir. Comme ça, elles ont vu elles-mêmes comment...
C'est important, même pour les enfants, hein, c'est vrai.
Tout à fait.
On avait participé, nous, modestement, à des ateliers. Une fois, on avait travaillé sur ce sujet, justement... où les enfants avaient pu rencontrer les personnes qui préparaient sur le papier dans un premier temps les repas pour que ça soit équilibré, sain, etc. Donc c'est tout un parcours.
Tout à fait.
Donc ça c'est intéressant. Donc les activités ne manquent pas, je
vois. Non, pas du tout.
Bon.
On a planté des agrumes aussi récemment. Donc d'ici 3-4 ans, on espère avoir de belles oranges.
Il faut laisser
et
le temps au temps. Hein.
Exactement.
Bien sûr. Mais dès qu'on commence à préparer, 3-4 ans, bon, ça fait long, mais on a hâte.
Oui, ça va très vite arriver. On a aussi un projet de poule pondeuse. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est du vivant, c'est pas simple, mais on sait que...
C'est une autre gestion, bien sûr.
Tout à fait.
Mais c'est important, ça aussi, parce que quand on voit le nombre d'élevages en batterie...
Voilà. On préfère avoir des bons œufs frais produits près de chez nous et ce n'est pas facile d'en trouver. Donc, c'est aussi pour répondre à une demande qu'on voudrait avoir des poules pondeuses.
Bon, donc il y aura d'autres moments où on pourra échanger pour venir présenter les activités.
Voilà, pas avec moi malheureusement parce que je quitte mes fonctions le 8 juillet prochain.
J'ai cru comprendre.
Mais Julie, se fera un grand plaisir, je pense, de venir au studio. Je sais qu'elle est déjà venue en plus.
Oui, mais on avait déjà échangé, voilà.
Moi, c'est ma première et dernière fois, mais c'est pour ça que j'ai un peu le cœur serré de ne pas faire ce marché de producteur.
Ça aurait été un beau feu d'artifice. Enfin non, je vais éviter les allusions. Un peu chaleur, etc. Bon, voilà, c'est une page qui se tourne.
Tout à fait.
Voilà, et puis bon, on sait qu'il y a de la relève et c'est une activité qui fonctionne.
Hein. Oui, bah là, il n'y a pas de doute. Et puis c'est un très beau projet qui parle à beaucoup de monde. Et ça, c'est chouette à mettre en place, à faire développer et à communiquer.
Coralie, on vous souhaite... vous allez tourner la page, j'entre dans la vie privée, on vous souhaite plein de belles actions d'autres missions. Et puis voilà, on sait vers qui se tourner pour venir parler, pour les agrumes notamment, mais on se verra bien avant. Mais Coralie, merci beaucoup pour ces belles minutes. Là, je regarde l'heure. Oui, on est bien sur le timing. Donc nous, on va en rester là sur la partie journal, n'est-ce pas, Nicolas? On va remercier Colline, notre stagiaire étudiante qui était à nos côtés pendant un mois. Voilà, on a pu échanger un petit peu tout à l'heure. Voilà, elle est à l'Université du Québec à Montréal en deuxième année, donc elle a partagé un mois avec nous, donc on lui souhaite bien sûr bon vent, bonne continuation et on la remercie bien sûr pour son intervention. Merci encore Coralie d'être venue nous parler des activités, même si le marché de producteurs locaux de ce samedi est annulé comme toutes les autres manifestations lormontaises. Alors s'il y a des exceptions, bien sûr on vous encourage dans des périodes comme celle-ci à contacter l'organisateur, mais sur les réseaux sociaux on a toutes les infos. Allez, dans quelques instants, on va retrouver le magazine juridique et social présenté et réalisé par Maître Paul Cesseau. Juste le temps de vous annoncer les invités à suivre la semaine prochaine dans le cadre de notre journal. Lundi, on aura Michel Favré. Voilà, on avait décalé, toujours pareil pour des raisons de canicule, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc Michel Favré viendra présenter sa 185e, ou 135, non, là j'allais un petit peu vite, 135e, mais c'est déjà pas mal. Chronique astro avec l'actualité. Il nous parlera des rendez-vous de l'été, Nuit des étoiles, etc. Donc ça sera exceptionnellement ce lundi, alors qu'on a l'habitude de recevoir Michel le mercredi. Mardi, ce sera Pierre Ginès, qu'on salue, un animateur bénévole d'Odo Radio. Là, il viendra nous parler du spectacle théâtral Nous marcherons sur l'eau, qui sera joué le samedi 4 juillet à la Maison des Soirs Partagés, la M270 à Florac. Ce sera en accès libre et gratuit. Et Pierre viendra nous en parler, bien sûr, de ce beau moment de théâtre à suivre. Mercredi 1er juillet, on sera toute la journée nous dans le cadre d'un événement qui se nomme Cap Ensemble, un événement inclusif, j'en perds mes mots, j'essaye de me dépêcher, donc inclusif, avec la ville de ce nom et le conseil départemental et toutes les associations qui œuvrent dans le champ de l'handicap. Ça sera sur le volet sportif que ce sera mis en avant et on sera toute la journée, on aura des directs, des interviews, ce sera au gymnase Lalanne à ce nom dans le quartier de la Morlette, donc dans le gymnase et en extérieur. Et jeudi 2 juillet, c'est encore à confirmer. Mais on aura des invités pour nous parler de l'éco-journée citoyenne qui va se dérouler à Florac-Dravemont vendredi prochain 3 juillet. C'est à confirmer, mais on a échangé, donc je pense qu'on aura des invités dans ce sens-là. Allez, on s'arrête là en ce qui concerne notre journal de ce vendredi 26 juin pour mieux retrouver donc Maître Paul Cesseau et la thématique abordée aujourd'hui est le devoir conjugal.
Le magazine juridique et social, défendez-vous, présenté par Maître Paul Cesseau.
Bonjour, vous êtes bien sur Odo Radio pour votre magazine juridique et social du vendredi. Et cette semaine, nous allons parler copula carnalis, comme on dit en latin, dans une vieille expression, et ce qui veut dire en substance union des chairs, consommation du mariage. Et je veux en venir à la question du devoir conjugal. puisqu'il y a des évolutions récentes. Mais qu'est-ce que le devoir conjugal ? L'idée est que du mariage naît l'obligation de consommer charnellement celui-ci, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles avec son époux ou son épouse. D'ailleurs, ça marchait dans les deux sens. Ça nous fait remonter un petit peu dans le sang, puisqu'il y a des notre droit actuel et puis notre code civil napoléonien de 1804 sont largement inspirés des droits romains et des droits médiévaux, des coutumes. D'où la reprise de l'expression plutôt droit canonique du copula carnalis en latin. Tout ceci étant des conceptions qui maintenant sont largement dépassées dans notre société. Et on va voir que le droit suit, mais avec une certaine lenteur et parfois quelques réticences, les plus jeunes pouvant éventuellement être surpris de la tardiveté des différentes réformes et des différentes évolutions. N'oublions pas, on va remonter au calende grec, mais simplement notre code civil actuel de 1804, qui a été réformé depuis. On n'a pas aujourd'hui, en 2026, un code civil identique à celui de 1804, évidemment. Mais la base, c'est ce code-là qui a été établi sous Napoléon. Et donc ce code ne faisait pas allusion à la question du devoir conjugal. On va voir que c'est une construction jurisprudentielle, mais c'est, l'idée était que la femme était soumise en tout point à l'homme. Alors j'ai un vieux code qui est un code de 1923, je crois, alors 1931, et qui date de mon grand-père. Simplement pour lire, on était quand même en 1931. Tout ceci a commencé à être réformé en 1965 et après dans les années 80 pour aboutir à une égalité parfaite des couples dans des époux dans le couple. Mais bon, de 1804 jusqu'en 65 en gros, l'article 212 du Code civil nous disait « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. » Il va y avoir une petite modification récente sur ce texte qui, sinon, n'a pas fondamentalement changé, si ce n'est qu'on a ajouté en 2006 que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Donc on a ajouté l'obligation de respect. Article 213. Alors là, quand on nous dit que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir, ça, c'est aujourd'hui. On voit une famille, égalitaire et une famille bienveillante. L'article 213 de 1804, et qui a été maintenu plus de 100 ans après, le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Donc protection toute relative, obéissance qui va être sanctionnée. Article 214, là où maintenant on nous dit que ce sont les époux en commun qui décident d'où on habite. Donc on nous dit la résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Ça c'est l'article 215 du Code civil de maintenant. L'article 214 disait la femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Alors, le mari, quand même, en contrepartie, hein, puisqu'elle est obligée de le suivre, le mari, en contrepartie, est quand même obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Voilà. Et donc, bon, pour le... on peut continuer. Il y avait quand même de la jurisprudence indiquant que la femme qui a abandonné le domicile conjugal peut être contrainte à le réintégrer, même par l'emploi de la force publique. Bon, évidemment, c'est quelque chose d'inimaginable maintenant. La contrainte peut avoir lieu par le ministère d'un huissier, qui peut au besoin se faire assister par la force publique. Donc il y a différentes jurisprudences, hein, cour de cassation, cour d'appel d'Aix en Provence, cour d'appel de Nîmes, cour d'appel de Pau. Et il peut y avoir une astreinte pécuniaire, nous avait dit le tribunal ou la cour d'appel de Lyon en 1909. Et en contrepartie quand même, la femme que le mari refuse de recevoir au domicile conjugal, là c'est le mari qui n'est pas dans ses, qui ne respecte pas ses obligations, donc la femme que le mari refuse de recevoir au domicile conjugal peut être autorisée par les tribunaux à y rentrer, même avec l'assistance du commissaire de police si besoin. Et bon, c'est-à-dire que ces obligations-là peuvent être exécutées de force. Évidemment, c'est bien différent aujourd'hui. Je continue simplement pour la démonstration, on va dire, et puis pour que l'on prenne conscience des changements qu'il y a eu. 215, la femme ne peut ester en jugement, c'est-à-dire en justice, agir en justice sans l'autorisation de son mari, et ce d'ailleurs même si elle est marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens, c'est-à-dire qu'aucune ne peut agir en justice. Sauf si la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police, Dieu merci, il faut quand même qu'elle puisse se défendre sans son mari. Et la femme ne peut donner, ça c'est l'article 217, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit. C'est-à-dire qu'en fait elle ne peut rien faire sans l'accord du mari, pas d'acte de vente, pas de donation, donc aliéné c'est la vente en gros, pas de donation, etc. Alors évidemment la contrepartie c'est comme toujours le juge est là en arbitre, si le mari se refuse à un acte, la femme peut saisir le tribunal qui peut donner l'autorisation à sa place. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que on part en 1804 et jusque aux premières réformes 1965, soit la réforme du mariage dans lesquelles il y a un début d'égalité, de libération de la femme. Une femme qui au final est totalement soumise à son mari et qui peut la contraindre à réintégrer le domicile conjugal si elle ne veut pas y revenir. De cela, de ce raisonnement et de l'obligation de communauté de vie dont j'ai parlé, les juges ont déduit l'obligation du devoir conjugal, et on note qu'en 1839, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que le devoir conjugal est susceptible d'une exécution forcée, la contrainte sexuelle pouvant seulement être qualifiée d'attentat à la pudeur lorsque le mari a fait subir à sa femme des actes contre nature, c'est-à-dire qu'au final, il y avait une autorisation de viol, sauf dans des circonstances très particulières. Alors évidemment, à l'époque, ce n'était pas qualifié de viol, puisque le viol entre époux n'existait pas. Alors on voit que donc la jurisprudence avait déduit que le mariage impliquait nécessairement l'existence de relations sexuelles. Jusqu'à dire qu'il peut y avoir une exécution forcée. Alors la situation évolue lentement, donc la Cour de cassation confirme dans les années 60 et dans les années 90 encore qu'il y a, alors pas l'exécution forcée, mais qu'il y a une obligation de relations sexuelles. Pourquoi ? Parce que on peut divorcer, est une cause de divorce le fait de se refuser à avoir de manière prolongée et non justifiée des relations sexuelles, puisqu'on retiendra que le divorce pour faute existe toujours en cas d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage. Et un arrêt de 1963 a pu prononcer le divorce au tort du mari, cette fois-ci, parce que le mariage n'était pas consommé depuis 5 ans, ce qui constitue une indifférence injurieuse rendant intolérable le lien conjugal. Alors, les termes utilisés ne sont pas toujours les mêmes, qui font référence aux différentes définitions du divorce pour faute tel que ça apparaît dans le code civil. Alors il va y avoir des évolutions qui vont d'abord porter sur la question du viol entre époux, puisque au final le devoir conjugal pose quand même cette question-là, sur la question du viol entre époux, mais des évolutions qui vont arriver quand même assez tardivement, puisque c'est en 1984 que la chambre criminelle de la Cour de cassation nous explique que Donc, méconnaît les dispositions de l'article 332 du code pénal, c'est-à-dire celle sur les viols, la chambre d'accusation, qui, constatant qu'un inculpé se livrait à des actes de pénétration sexuelle à l'aide de violences sur son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, refuse d'ordonner l'inculpation du chef de viol. Et donc, du coup, là, on est en train de dire qu'il peut y avoir viol entre époux, avec... En 1990, un autre arrêt de la chambre criminelle, donc on est quand même récemment, bon, pour des gens qui sont nés en 2000, évidemment ça paraît lointain, mais pour des gens un petit peu plus âgés, on se rend bien compte que c'est très récent. On nous dit que l'article 332 du Code pénal n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage lorsque ces actes sont imposés par violence ou contrainte. Bon, ça fait un peu référence aussi à la définition du viol tel qu'il était à l'époque. Et en 92, on nous explique que la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. On comprend quand même qu'il y avait à l'époque quand même une présomption. Donc des évolutions. Côté pénal, mais au final assez, assez lente et assez récente. En parallèle, la Cour de cassation maintient sa position relative au devoir conjugal, puisque en 97, on nous dit que l'abstention prolongée de relations intimes non justifiées constitue une faute grave justifiant le divorce auto-exclusif d'un époux. Et il y a même eu une décision, puisque quand on divorce pour faute, il peut y avoir des demandes de dommages intérêts. Il y a même eu une décision en 2011, donc là c'est quand même beaucoup plus récent, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans lequel le manquement au devoir conjugal par un ex-époux a conduit à sa condamnation à des dommages intérêts au profit de sa conjointe à hauteur de 10 000 euros pour réparer l'absence de rapport sexuel pendant plusieurs années. On nous dit au motif donc que ces derniers sont l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage. On voit qu'en 2011, on n'avait quand même pas beaucoup évolué, même s'il n'y avait plus de décision expresse de la Cour de cassation, mais la jurisprudence était maintenue. On va le voir. Il va donc y avoir des évolutions côté pénal, puisque 2006, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on a ajouté l'obligation de respect mutuel dans l'article 212 du Code civil, la loi va reconnaître de manière explicite le viol entre époux avec une circonstance aggravante lorsque l'auteur est le conjoint, concubin, partenaire. Le mariage ne justifiant donc plus la contrainte sexuelle, reste que... l'article 222-22 du code pénal, qui est modifié donc par cette loi du 4 avril 2006, nous dit la chose suivante: le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section. Quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris lorsqu'ils sont unis par les liens du mariage. Mais on nous écrit, dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Donc on voit qu'il y a des évolutions, mais on n'est pas encore totalement. On va supprimer cette présomption en 2010. Reste que sur le côté civil. Donc quant au côté pénal, les réformes parachève assez récemment d'ailleurs. Sur le côté civil, reste que l'on a toujours une obligation de relation sexuelle, puisque celle-ci est sanctionnée. Donc à partir du moment où il y a une sanction, c'est qu'il y a une obligation et que celle-ci est maintenue. Et ce, jusqu'au final, à ce jour, puisque l'évolution n'est pas complètement parachevée. Où en est-on ? On en est que nous avons un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, et heureusement que celle-ci est là. On l'a décrit, on peut dire, pas tant dans notre pays que dans notre pays, on peut dire pique-pendre de celle-ci, mais enfin, force est quand même de constater que si elle n'était pas là, j'allais dire, il faudrait l'inventer, mais qu'on serait peut-être dans une situation un peu... plus rétrograde, et on se souvient que c'est elle qui a permis des avancées majeures, et notamment en droit de la famille par exemple, avec la cessation de l'inégalité qui pouvait exister, par exemple, entre les enfants lorsqu'on avait un enfant qu'on appelait adultérin. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes études, l'enfant adultérin avait droit à la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit s'il avait été légitime. L'enfant adultérin, c'est celui qui est né d'une relation adultérine, donc d'adultère, du mari plus souvent, ou de la femme qui est mariée. Donc ses droits étaient de la moitié de ceux des autres enfants s'il y avait des enfants légitimes, c'est-à-dire nés dans le mariage. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui en 2000 a condamné la France et qui a abouti à une modification de cette règle. C'est encore elle qui, et on aurait pu penser quand même qu'on s'occupe de cette problématique avant, ou que la Cour de cassation s'en saisisse aussi de manière un peu intelligente, puisque l'occasion se présentait quand même, puisqu'il y avait quand même moins, si c'était moins souvent, un certain nombre de juridictions du fond, c'est-à-dire tribunaux et cours d'appel, qui continuaient à être saisis de demandes en divorce pour manquement au devoir conjugal. Et donc on va le voir dans cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que je reprends maintenant. On a un arrêt Strasbourg, 23 janvier 2025. Définitif au 23 avril, c'est la requête 13805/21 pour ceux qui voudraient aller voir affaire HW contre France. Les faits sont les suivants. Vous avez une dame qui est née en 1955, qui s'est mariée avec son époux en 1984. Ils ont eu 4 enfants. Et en 2012, elle demande le divorce. La procédure avance, etc. Elle la signe en divorce pour faute. Et elle dit « Oui, mon mari a privilégié sa carrière professionnelle au détriment de notre vie familiale et il s'est montré irascible, violent et blessant. » Je reprends les termes de l'arrêt de la CEDH. Elle présente des demandes relatives aux conséquences du divorce, peu importe, et elle demande des dommages intérêts à hauteur de 8000 euros en réparation des fautes que son conjoint a commises durant la vie conjugale, donc les motifs que je viens d'indiquer. En défense, non dit à titre conventionnel, c'est-à-dire qu'il formule le mari formule une demande également, je vais dire c'est de bonne guerre, de divorce au droit exclusif de son épouse, en disant que celle-ci s'est soustraite au devoir conjugal pendant plusieurs années. Elle a manqué au devoir de respect mutuel, proféré des accusations calomnieuses, etc. Bon, on ne s'entend pas bien, et il demande aussi de dommages intérêts, mais enfin, subsidiairement, il conclut au divorce par altération du bien conjugal, c'est-à-dire que les époux sont séparés depuis plus d'un an, et que donc le juge peut prononcer le divorce sur ce... pour cette simple cause. Pour rappel, quand moi j'ai prêté serment, bon, certes ça fait un peu ancien peut-être, mais c'était 6 ans qu'il fallait attendre, ça a été réduit. Maintenant on attend une année de séparation et ça suffit pour justifier le divorce. Mais si un divorce pour faute qui a été demandé, on étudie d'abord le divorce pour faute. Le premier juge, c'est-à-dire le juge d'affaires familiales, en 2018 nous dit qu'aucun des griefs allégués par les époux n'est étayé et le divorce n'est pas prononcé pour faute. Et concernant le manquement au devoir conjugal, il nous dit que les problèmes de santé de l'épouse sont de nature à justifier l'absence durable de sexualité au sein du couple, et il prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. On aurait pu penser que ça s'arrête là, mais c'est l'épouse qui a eu la mauvaise idée de faire appel. Tout le monde maintient sa position devant la Cour d'appel. Et la Cour d'appel de Versailles en 2019, c'est donc quand même récent, prononce le divorce au droit exclusif de l'épouse. Au droit exclusif de l'épouse en nous disant qu'elle a reconnu elle-même qu'elle a cessé toute relation intime avec son mari depuis 2004, sachant qu'elle a demandé le divorce en 2012. Que les éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l'épouse à partir de 2004 des relations intimes avec son mari pendant une durée aussi longue, alors que dans la main courante qu'elle a elle-même fait, elle relate les sollicitations répétées de son époux à ce sujet et les disputes générées par cette situation. Donc ces faits qui sont établis par l'aveu de l'épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Alors là, cette notion à décharge de la Cour d'appel, c'est la définition divorce pour faute. Tel qu'elle est dans le code civil, donc à partir de ce moment-là, le divorce est prononcé au tort de l'épouse. Elle fait un pourvoi en cassation. Alors, c'est là que la Cour de cassation rate une occasion, peut-être, de revenir sur sa jurisprudence ancienne qu'elle n'avait pas réitérée depuis 1997, pas expressément. Et donc là, c'était l'occasion, puisqu'elle était saisie de différents moyens, et qui nous disait que le refus de relation intime ne saurait être érigé en un fait constitutif d'une telle violation. Car admettre le contraire reviendrait à consacrer purement et simplement l'existence d'une véritable obligation pour chacun des époux de répondre et céder aux exigences de son conjoint sur ce point, peu important que tel ne corresponde pas à ses propres souhaits. Et on disait, c'est en réalité le droit à l'intégrité physique et la liberté individuelle, droits fondamentaux consacrés par la CEDH, la Convention européenne sur les droits des parties fondamentales, qui sont en cause. La Cour de cassation donc était saisie aussi de moyens suivants. La Cour d'appel a consacré une obligation pour l'épouse de répondre aux demandes de son conjoint quand même tel n'aurait pas été son souhait. Et la Cour de cassation nous dit quoi ? Donc le mari se défend. La Cour de cassation rejette par un pourvoi non spécialement motivé. C'est-à-dire qu'un pourvoi non spécialement motivé, c'est quoi ? Ça veut dire qu'elle estime qu'il n'y a pas de moyen sérieux qui nécessite l'étude plus avant du dossier, c'est-à-dire qu'on est en juillet 2020, c'est-à-dire il y a 6 ans maintenant, 5 ans avant l'arrêt de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, on rate quand même une occasion et une belle occasion d'éviter une condamnation et l'occasion de se montrer un peu plus. J'allais dire au bout du jour, en tout cas à jour par rapport à la société et à l'évolution de celle-ci, d'autant que ça l'a fait un moment déjà que le mouvement MeToo a commencé. Et alors, donc elle décide de saisir la Cour européenne des droits de l'homme en disant c'est intolérable. Et bon, pas de mystère, elle va gagner. Mais l'intérêt, alors je vais passer vite, c'est le raisonnement de la Cour européenne. Et vite, parce que je vois que le temps passe. Donc la Cour européenne nous rappelle que la notion de vie privée, donc on est sur l'article 8 de la Convention, le droit au respect de la vie privée et familiale. Donc la notion de vie privée recouvre notamment la vie sexuelle. Le respect de l'autonomie personnelle est un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de l'article 8. Et donc le droit au respect de la vie privée doit ainsi être compris comme garantissant la liberté sexuelle, c'est-à-dire la possibilité de dire oui, la possibilité de dire non. Et donc la Cour considère que la réaffirmation du devoir conjugal et le fait d'avoir prononcé le divorce pour faute, au motif que la requérante avait cessé toute relation intime avec son époux, constitue des ingérences dans son droit au respect de sa vie privée, dans sa liberté sexuelle et dans son droit de disposer de son corps. Alors ça, c'est l'ingérence. Après, est-ce que l'ingérence est justifiée ? C'est bien la question qui est posée à la Cour, puisque c'est tout le temps comme cela qu'on raisonne au regard au texte de la Convention. La Cour d'appel, la Cour européenne, mentionnant quand même que les conclusions de la Cour d'appel sont particulièrement stigmatisantes dans la mesure où le refus opposé par la requérante a été considéré comme une violation grave et renouvelée des obligations de mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Manifestement, la Cour est passablement choquée de l'arrêt ainsi rendu. On nous rappelle que concernant donc la nécessité des ingérences, que celles des raisons particulièrement graves justifient des ingérences des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité, qui relève sinon de la liberté de chacun. On nous rappelle que tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle. et que donc n'est pas garanti le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple, l'existence d'une obligation matrimoniale, donc de devoir conjugal, est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles. Voilà, alors le gouvernement n'avait pas brillé en défense par la modernité son argumentaire, il aurait pu proposer un projet de loi pour modifier les textes ou pour influer sur la Cour de cassation, pour le coup, puisque celle-ci applique la loi. Donc si on prévoit un texte, inévitablement, la Cour de cassation sera tenue de le respecter. Le gouvernement a raté l'occasion d'être un petit peu plus intelligent et rappeler même que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures, ce qui est aujourd'hui dans notre monde quand même du grand n'importe quoi. Et donc la Cour européenne condamne la France à l'unanimité, violation de l'article 8 de la Convention. Le constat de la violation constituant une satisfaction équitable, c'est-à-dire la réparation. Alors aujourd'hui, on en est où? On en est que encore ça discute entre les deux. On en est où que d'abord la Cour de cassation va bien être obligée de se plier à la position de la CEDH déjà, et les juges du fond, aussi. Ensuite, qu'au niveau législatif, même si là c'est pour l'honneur un peu tardivement, vous avez une proposition de loi, c'est-à-dire que c'est une proposition de loi, ça veut dire que ça vient des parlementaires et pas du gouvernement, qui vise à modifier l'article 215 du Code civil pour mentionner que donc l'article 215 nous dit les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, voilà, cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles. Et une proposition de modification à l'article 242. Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Donc on a vu que c'était la définition divorce pour faute. Le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. Alors on bataille les assemblées sur le terme relation sexuelle, relation intime. Bon voilà, on chipote un peu, mais l'évolution est faite, contrainte et forcée par la position de la Cour européenne des droits de l'homme. Dernier point qui finalement qui est en lien, sur un arrêt de la Cour de cassation 19 mars 2026, qui est relative à l'allocation solidarité aux personnes âgées, dont le montant varie selon que l'allocataire est ou non concubin. Et là, on avait deux femmes qui estimaient que, bien que vivant ensemble, n'ayant pas de relation sexuelle, elles n'étaient pas dans une relation de concubinage. Et la caisse qui paye l'allocation indiquait, peu importe l'existence de relations sexuelles, il peut y avoir concubinage malgré tout. Et donc la caisse avait son intérêt, puisque évidemment, s'il y a concubinage, c'était moins élevé. Et donc là, la Cour de cassation se voyait poser la question de savoir si la définition du concubinage, l'existence d'un concubinage, la qualification donc juridique de concubinage dépend de l'existence de relations sexuelles ou pas. La Cour de cassation nous dit que non, en réalité, donc les critères déterminants résident dans l'existence d'une vie de couple et non dans l'existence de relations charnelles. Voilà, sur ce, je suis obligé de m'arrêter puisque c'est l'heure. Pour ce petit rappel historico-juridique, et je vous dis à très bientôt. Bon week-end, au revoir.